le sujet, c'est vraiment aujourd'hui comment la RSE peut être un vrai levier de développement pour les entreprises. Pas qu'une démarche parallèle qu'on met en place ou des actions qu'on met en place, plutôt quelque chose qui va dans le sens du développement d'une entreprise. Donc, petite présentation, bon, on se connaît déjà. Du coup, la question, c'est plutôt pourquoi je me suis inscrite aujourd'hui, pourquoi vous vous êtes inscrite à ce webinaire?
Parce qu'on a bien avancé sur certains projets au niveau du foyer de vie.
D'accord.
Et que maintenant, j'ai des résidents qui me disent on peut faire attention au tri des déchets, j'ai des salariés qui me disent, voilà, comme on a avancé sur certains sujets,
oui.
Les gens ont plus d'ouverture d'esprit pour d'autres sujets. Donc voilà.
Super.
On va avoir l'évaluation là, de l'établissement en octobre. Et du coup, à force de travailler sur certains sujets, bien, en fait, il y a d'autres sujets et on arrive sur des sujets comme ça. Alors, je me dis, j'ai pas assez de compétences pour avoir la vision globale de ce que c'est la RSE.
D'accord. Très bien. Très bien. Super. Bon, du coup, je répondrai à vos questions tout au long de la présentation. Donc, quand vous entendez la démarche RSE, pour vous, vous pensez à quoi? C'est quoi cette démarche pour vous?
Responsabilité sociale des entreprises par rapport à la planète, par rapport aux êtres humains, par rapport à l'hyperconsommation qu'on pourrait s'éviter.
Exactement. C'est vrai que ça part aussi d'une volonté personnelle, d'une façon d'être personnelle, et du coup, ça s'applique dans l'entreprise aussi. Exactement. Donc, oui, la RSE, c'est la responsabilité sociétale d'une entreprise, parce que bon, des fois, on dit c'est la responsabilité sociétale et environnementale, voilà. Mais vraiment, la vraie définition, c'est la responsabilité sociétale d'une entreprise. Dans sociétale, on retrouve tous les éléments social, environnement, économique, etc. Donc, la définition, c'est la manière dont une entreprise intègre les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans ses activités et ses relations avec ses parties prenantes. Donc, on intègre complètement les parties prenantes dans une démarche RSE. Donc, on se pose des questions sur les sujets autour du social, donc le RH, les RH, l'environnemental, l'économique, l'impact territorial, l'ancrage territorial. Et dans toute cette réflexion-là, il est central d'impliquer et de réfléchir aux parties prenantes. Les parties prenantes d'une entreprise, c'est toute personne physique ou morale qui est impactée directement par notre activité. Il y a des parties prenantes internes, comme les salariés, la direction, le CSE, qui peut être une partie prenante. Et il y a des parties prenantes externes à l'entreprise. Donc, ces parties prenantes, ça va des clients, aux fournisseurs, aux partenaires institutionnels, à l'État. Voilà, donc toutes ces parties prenantes-là, à un moment donné, dans une démarche RSE, il faut réfléchir aux enjeux communs qu'on a avec eux, vu que notre activité les impacte directement. En d'autres termes, c'est faire du business, c'est développer son entreprise de façon responsable, en cherchant à avoir un impact positif sur la société et l'environnement, tout en assurant la pérennité et la performance de l'entreprise. Aujourd'hui, en fait, la question qu'on se pose et qu'on voit dans toutes les entreprises qui ont engagé une démarche RSE, c'est vrai qu'on a beaucoup de retours d'entreprises qui disent « à un moment donné, moi, je me suis engagée dans une démarche RSE, j'ai mis en place plein d'actions et c'est vrai que je me suis tellement focus sur la démarche RSE et les initiatives que je mets sur la qualité de vie au travail, sur l'impact environnemental, sur toutes ces questions-là, que finalement, je me suis un peu, en fait, détachée de la performance de mon entreprise et du développement de mon entreprise. Donc, soit j'ai des entreprises qui tellement s'ils sont engagés dans la RSE au niveau parallèlement du développement de leur entreprise, ils ont peut-être mis de côté le développement de l'entreprise pour s'occuper de la RSE. Et on en a d'autres qui vont être beaucoup plus sur les développements et qui vont mettre de côté la RSE. Donc là, en fait, on va essayer de trouver la bonne approche pour à la fois, en fait, on intègre une démarche RSE qui permette à l'entreprise d'aller chercher beaucoup plus de performance et de développement. OK ? Et là, c'est la meilleure façon d'aborder la RSE. Donc là, les différents piliers de la RSE, on peut en imaginer plusieurs. Nous, en fait, ce qu'on propose aux entreprises, c'est vraiment d'évaluer sur 5 piliers. Les cinq piliers sont importants parce qu'en fait, ça nous permet vraiment de réfléchir par axe de travail. Donc là, on a en premier l'axe de travail, par exemple, économique, qui rentre complètement dans une démarche RSE. Le pilier économique, c'est quoi ? C'est de pouvoir se développer, mais en adoptant des pratiques commerciales éthiques. On ne trompe pas nos clients, on est transparent dans notre démarche, on est éthique dans la relation avec nos clients, on favorise l'économie circulaire, l'économie locale, donc on va favoriser les fournisseurs locaux, par exemple, si c'est possible. Voilà, et on réfléchit à la performance globale de l'entreprise. On va y revenir après. Le pilier social, c'est toute la partie gestion des ressources humaines. Donc, dans la gestion des ressources humaines, on retrouve tout le process du coup RH où, en fait, on met en place les différentes étapes du parcours du collaborateur dans l'entreprise, du recrutement à l'intégration, à la formation, montée en compétences jusqu'au départ même du collaborateur. Ce process-là, il doit être clair, il doit être juste, en fait, entre le personnel. Quand, en fait, on formalise les choses, on garantit qu'on va, en fait, avoir une relation, on va dire, un comportement qui est juste, en fait, et équitable, en fait, entre les salariés. Donc, avec ça, on va pouvoir favoriser ça. Et du coup, en fait, il y a le process, mais il y a aussi toute la partie conditions de travail, égalité, diversité, inclusion, toutes les valeurs en fait qu'on va instaurer dans l'entreprise et toute la question aussi de la qualité de vie au travail en fait. Toutes les initiatives qu'on va mettre en place pour favoriser ce relationnel et ces valeurs qui sont positives, qui vont de l'inclusion, la diversité, la non-discrimination, tous ces éléments-là. Donc, dans le social, on retrouve le process, donc les pratiques qui sont formalisées pour garantir l'équité, mais aussi on retrouve toutes les conditions de travail et tout ce qui tourne autour de la qualité de vie au travail. Voilà. Ensuite, il y a le pilier environnement. Donc, dans le pilier environnement, bien évidemment, c'est toutes les actions qu'on peut mener, en fait, qui vont de la réduction tri des déchets au recyclage, à favoriser la mobilité durable, à utiliser des produits éco-conçus, à réfléchir à des projets de végétalisation, espace vert, biodiversité. Donc, toutes les initiatives qu'on peut mettre en place qui vont réduire notre impact environnemental. Donc, c'est toutes ces pratiques-là. Mais si on veut aller encore plus loin, en fait, on va faire un bilan carbone ou même une analyse en fait, de notre impact environnemental pour identifier là où réellement on a un fort impact sur l'environnement et à partir de là, mettre en place un plan d'action qui est vraiment adapté à notre cas. Voilà. Au niveau du pilier territorial, donc là, c'est l'ancrage territorial. C'est vraiment une entreprise aujourd'hui, elle ne peut pas fonctionner dans une bulle, en fait. Elle est forcément, elle doit être forcément impliquée au niveau de la société parce qu'elle est présente dans une zone d'activité, dans une ville, dans une région, etc. Donc, elle a un impact, elle doit forcément en quelque part, il y a deux actions qu'on peut mener. La première, c'est vraiment de pouvoir être impliqué en fait dans les réseaux économiques, porter un projet dans le cadre de notre secteur d'activité, voilà, porter la parole. Et aussi, on peut dans ce cas-là aussi agir au niveau mécénat, association, donc philanthropie, donc vraiment s'engager au niveau avec une association spécifique, faire des dons, participer à des événements caritatifs. Donc voilà, ça peut être tout, mais en tout cas, c'est de sortir de l'entreprise pour agir au niveau de la société. Et le dernier pilier, c'est la gouvernance. C'est aujourd'hui le point aussi central d'une démarche RSE, c'est en fait de pouvoir aussi structurer une gouvernance saine dans l'entreprise où en fait c'est clair, en fait on connaît la hiérarchie de l'entreprise, il y a du pilotage, il y a de la transparence, il y a du management participatif si c'est possible, en tout cas voilà, il y a du partage et la gouvernance elle est saine, donc vraiment la prise de décision elle est transparente, les collaborateurs ont une vision de l'avenir de l'entreprise. Donc voilà, tous ces éléments aussi rentrent dans le cadre d'une démarche RSE. Voilà. Donc, quand on aborde la RSE, il faut forcément savoir que ça part d'une norme internationale, c'est la norme ISO 26000. C'est une norme, en fait, qui régit, qui clarifie les notions de la responsabilité sociétale. C'est à partir de là, en fait, qu'on va... connaître réellement ce qu'il y a en termes à évaluer en termes de RSE. Donc c'est une norme internationale. Elle n'est pas, c'est pas une norme où on peut se faire certifier. En fait, c'est pas comme l'ISO 9001. C'est vraiment une norme juste qui régit, qui donne le cap et qui donne les éléments à connaître en fait pour engager une démarche RSE. Voilà, après, il y a différents piliers, mais du coup, ça rentre complètement dans ce que j'ai présenté en amont. Droits de l'homme, par exemple, ça rentre dans le social, relations, conditions de travail sociales aussi, voilà. Questions relatives aux consommateurs, c'est le pilier économique. Donc, on retrouve tous les éléments au niveau de la slide que j'ai présentée avant. Est-ce que du coup, avec tous ces éléments-là, vous avez une idée un peu plus poussée par rapport à ce que c'est qu'une démarche RSE ?
Alors, oui, la question que vous me posez, est-ce que ça... listing en fait de tous les points de l'ISO 9001.
Alors on peut avoir le listing de tous les critères. C'est vraiment un référentiel où on a réellement plusieurs critères. On peut s'appuyer dessus pour faire une évaluation poussée et dire voilà par critère est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, est-ce que en fait on peut s'améliorer. Oui, il y a un référentiel qui est plus détaillé que ces cinq piliers-là, ça c'est sûr.
D'accord, ça c'est facile à trouver. J'ai
jamais cherché. Il faut voir, sinon bah, je peux vous envoyer quelque chose cet après-midi. Je crois que j'ai un tableau où en fait on a les différents critères, je crois. Ouais.
D'accord, mais merci bien.
Vérifie. Ok. Super. Donc finalement, cette démarche RSE, elle paraît être intéressante. Pourquoi aujourd'hui une entreprise devrait adopter cette démarche-là, à votre avis ?
Daniel ?
Oui.
Eh bien, c'est l'avenir. Mmh.
Je ne sais pas. C'est une évidence, c'est du bon sens pour vous, oui.
Pour moi, c'est du bon sens parce qu'on en fait déjà une partie.
Oui, c'est sûr.
Et c'est valoriser ce qu'on fait.
Oui.
C'est quand je vois que c'est les habitants du foyer qui me posent des questions, donc les gens sont déjà sensibilisés à ça.
Bien, ouais.
Donc je me dis, faut y aller.
Faut y aller, ouais, c'est sûr. Bon, bah, très bien. C'est exactement ça. Après, c'est du bon sens. En fait, nous, on sait aussi que chaque entreprise a déjà engagé des choses, forcément. Quand on fait un état des lieux, on se rend compte toujours qu'il y a des choses qui sont mises en place qu'il faudrait valoriser, bien évidemment, dans le cadre de cette démarche-là et peut-être aller un peu plus loin sur d'autres sujets. Ça, c'est sûr. Donc, juste pour faire le lien avec la performance globale, donc la RSE, en fait, c'est vraiment aller chercher une performance beaucoup plus globale, aller au-delà de la performance économique d'une entreprise. Donc, la performance globale est une vision élargie de la réussite d'une entreprise qui ne se limite pas uniquement à la performance financière. Elle repose sur un équilibre entre performance économique, sociale, sociétale et environnementale, garantissant ainsi la pérennité et la résilience de l'entreprise. Donc là, au niveau de la RSE aussi, on va aller chercher la performance globale. La performance économique, bien évidemment, donc assurer la rentabilité et la croissance de l'entreprise tout en optimisant les ressources et les investissements. La performance sociale, c'est favoriser le bien-être et l'engagement des collaborateurs en développant des conditions de travail épanouissantes et inclusives. La performance sociétale, c'est contribuer positivement à son territoire et à la société en intégrant des enjeux éthiques et solidaires dans son modèle d'affaires. La performance environnementale, c'est réduire son impact écologique en adoptant des pratiques durables et responsables. Et la performance de gouvernance, c'est développer un mode de gestion transparent, participatif et éthique pour une prise de décision éclairée et partagée. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire en fait, cette démarche-là doit me permettre d'aller au-delà de la performance financière et d'obtenir cette performance globale à tous les niveaux. C'est travailler tous les piliers, finalement, pour que la valeur de mon entreprise, pour développer la valeur de mon entreprise, finalement. Donc, les bénéfices, en fait, surtout, bon, moi, j'ai axé plus pour les TPE-PME. Les bénéfices, en tout cas, de cette démarche-là, contrairement aux idées reçues, la RSE n'est pas réservée aux grandes entreprises. Elle peut être vraiment un véritable levier de croissance et de performance pour une TPE-PME. Une démarche RSE bien intégrée permet de se différencier et de gagner en compétitivité, formaliser sa mission sociétale, sa singularité grâce à ses actions responsables, son engagement, ça permet vraiment d'être facilement identifiable par ses parties prenantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, quand on travaille la RSE, vraiment, quand c'est vraiment intégré dans l'entreprise, bah, finalement, tous ces engagements qu'on prend au quotidien, bah, ça permet en fait de nous différencier des autres entreprises qui sont nos concurrents. En fait. Par exemple, pour votre cas, un établissement comme vous, bah, et le fait de travailler cette démarche RSE, bah, en fait, finalement, on va se découvrir, on va identifier bah, finalement quels engagements forts emportent, mis à part en fait, l'activité qu'on mène, et ça va finalement nous permettre de nous différencier auprès des autres établissements. Et auprès de nos parties prenantes. Attirer et fidéliser tes talents, oui, parce qu'en fait, le fait de travailler déjà sur le pilier social, bah, offrir de meilleures conditions de travail, donner du sens aux missions des collaborateurs et améliorer la marque employeur, bah, finalement, ça permet d'attirer ou de fidéliser les talents, parce que les attirer, parce qu'ils vont se rendre compte que vous n'êtes pas un établissement comme un autre, parce que quelque part, vous travaillez sur des sujets de responsabilité, voilà, et vous allez les valoriser, donc ils vont le voir. Donc, ça va vraiment interpeller les candidats qui voudraient travailler dans un environnement comme le vôtre. Fidéliser les talents, parce que quelque part, déjà, vous l'avez dit, il y a quelques-uns de vos collaborateurs qui vous sollicitent même pour des idées d'initiative. Donc, de voir que vous prenez le temps, en fait, d'intégrer tout ça malgré le quotidien et le fait que, voilà, il y a aussi le développement de l'entreprise et tout ce qui va avec, ben, finalement, ils vont voir que vous faites les choses bien et vous répondez aussi à quelques demandes. Donc, ça fidélise des talents. Optimiser les coûts, oui, parce que réduire la consommation d'énergie, travailler sur l'environnement, limiter les déchets, optimiser les ressources, ça permet aussi d'optimiser les coûts. S'ouvrir à l'extérieur et être plus en proximité avec ses parties prenantes, comme j'ai dit au début, les parties prenantes, c'est clairement le point central d'une démarche RSE. Valoriser son engagement auprès de sa communauté locale, s'impliquer en fait clairement au niveau du territoire, permet en fait à l'entreprise d'avoir plus de visibilité, mais aussi d'être plus proche de ses parties prenantes et des attentes de ses parties prenantes. Alors que si on ne travaille pas la RSE, clairement, en fait, c'est difficile aussi de faire cette veille-là et de connaître vraiment les attentes de nos parties prenantes et de travailler dessus réellement. Donc là, ça nous ouvre cette opportunité-là. Renforcer aussi la résilience de l'entreprise face aux crises. Il y a quelqu'un aussi qui m'a dit, par rapport à cet axe-là, c'est aussi... améliorer la gestion des risques de l'entreprise, parce que quelque part, quand on travaille sur le pilier social, sur les conditions de travail, sur la sécurité au travail, on travaille aussi sur l'inclusivité, sur la diversité, sur l'environnement, sur l'impact environnemental, sur la préservation de la biodiversité, etc. Quand on travaille sur ces sujets-là, quelque part, on réduit finalement, on se protège aussi, parce que quelque part, à un moment donné, il peut y avoir un risque, mais nous, en fait, en ayant réfléchi en amont à tous ces sujets-là, bah, on peut aussi trouver des solutions et anticiper les choses. Voilà. En vrai, c'est des choses réellement que je vois dans les entreprises que j'accompagne ou pas, qui ont engagé une démarche RSE, c'est clairement les bénéfices, en fait. Oui.
Moi, ça me fait beaucoup penser. On est au milieu du R, du document pour la continuité de la gestion des risques, la continuité de l'activité. En fait, on a déjà plusieurs documents.
Oui.
Concrètement, comment il faut faire ? C'est juste écrire une partie de tout ce qu'on fait qui est un peu écrit dans tous ces documents-là pour éviter de refaire un document.
Après, je vais vous montrer la démarche. En fait, vous parlez de la prochaine étape, du coup, ce que j'allais vous présenter, c'est un peu la démarche du coup RSE. Mais oui, parce qu'en fait, on va le voir. Là, je vais vous expliquer. Je vais répondre à votre question du coup sur ces slides-là. Donc, en fait, une démarche RSE, comment elle est implémentée dans une entreprise ? Donc, au départ, il y a trois étapes clés qui permettent en fait de garantir une démarche qui est vraiment intégrée dans l'entreprise. Parce qu'il y a, là, je vous présente la démarche et ensuite, je vais vous présenter aussi les clés de réussite d'une démarche RSE. Qu'est-ce qui va faire que c'est vraiment ça va être une réussite finalement ? Donc, il y a quatre étapes clés. La première, comme vous l'avez dit, il y a des choses que vous mettez déjà en place. il y a d'autres choses peut-être que vous ne mettez pas en place et du coup, vous n'êtes pas… Voilà, il faut faire un état des lieux au début et se dire, voilà, connaître son niveau de maturité RSE pour savoir d'où est-ce qu'on part en fait. Lister les engagements déjà établis dans l'entreprise et identifier les axes de progrès. Ça veut dire qu'aujourd'hui… par rapport à un référentiel, donc je vais vous montrer après, mais en tout cas, c'est de se dire, même par rapport à ces cinq piliers-là, c'est de se dire, voilà, quelles actions, moi, je mène déjà, quel engagement je prends, j'ai déjà établi, en fait, aujourd'hui, je vais lister, voilà, comme vous avez dit, si vous avez travaillé sur la RGPD, on a travaillé sur, je sais pas moi, les fiches de poste et les entretiens annuels, on a une charte éthique, on a on fait des dons à une association, on a, voilà, c'est vraiment lister ce que vous avez déjà mis en place. Et ensuite, identifier, par rapport aux cinq piliers, quels sont vos axes de progrès? Par exemple, vous allez dire, OK, sur les RH, donc on a social, on a mis ça en place. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à tout ce qui est non-discrimination et inclusivité. C'est vrai qu'on le fait un peu comme ça, mais ce n'est pas forcément formalisé. Et pour que ça soit vraiment quelque chose de concret, il faudrait qu'on formalise les choses. Il faudrait peut-être qu'on travaille sur une charte inclusivité ou sur au niveau du recrutement, peut-être qu'il faudrait peut-être qu'on retravaille dessus. Voilà, c'est de dire quels sont les axes de progrès. Peut-être sur l'environnement, aujourd'hui, on fait ça et ça et ça, mais peut-être que on voit qu'on a, par exemple, on imprime beaucoup, ou bien, par exemple, on devrait peut-être mettre en place un compost. Voilà, c'est vraiment… les axes de progrès. Donc, l'idée, c'est de commencer toujours par un état des lieux. Donc, ça vous permettra de vous identifier votre niveau de maturité. Ensuite, en étape 2, c'est de définir, en fait, votre projet RSE. Donc, là, c'est hyper important de définir un projet, de définir une politique RSE avant d'enclencher un plan d'action. L'idée, en fait, c'est de dire pourquoi, aujourd'hui, vous vous engagez dans cette démarche. Quels sont les enjeux de cette démarche? Pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui? C'est vraiment ces questions-là vont donner du sens à cette démarche et vont permettre aux collaborateurs et à vos parties prenantes de s'engager dedans, de dire « Ah, mais ce projet-là, il va nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Il va nous permettre, en fait, ça permet de créer le collectif. » Je ne sais pas, en fait, on réfléchit concrètement aux enjeux de la démarche RSE, on le fait pour ça, et en fait, définir les engagements forts à partir de l'état des lieux et aussi de ce que vous souhaitez engager. Par exemple, là, on voit dans les axes de progrès, travailler sur… par exemple, travailler clairement sur la diversité. Je ne sais pas, franchement, là, c'est une question qui vous parle, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas abordé, etc. Donc là, l'engagement que vous prenez, c'est en fait de favoriser la diversité au niveau du recrutement. Par exemple, pour l'année 2025, c'est vraiment travailler sur ça. Ça, c'est un engagement que vous prenez, OK, qui est en lien avec votre projet global. Donc ça, c'est le premier élément. Et aussi, d'identifier un pilote ou en fait quelques ambassadeurs, des personnes qui ont envie en fait de porter avec vous ce projet-là parce que ça les intéresse, parce qu'ils sont sensibles au sujet. Voilà, ça permet de constituer une première équipe pilote en fait. Ensuite, l'étape 3, c'est la mise en œuvre. Donc là, en fait, à partir des engagements qu'on a formalisés, donc on s'engage cette année à faire ça, à faire ça, à faire ça, c'est un peu global. Et ensuite, on va, à partir de l'engagement, on a dit l'engagement, c'est favoriser la diversité au niveau des recrutements, etc., ou l'inclusivité, bref. Donc ça, c'est un engagement. Du coup, qu'est-ce que je mets comme plan d'action? Donc là, je dis, OK, ben nous, en fait, il faudrait déjà qu'on fasse une mini-formation, par exemple, sur la question de la diversité, inclusivité, etc. Ça, c'est pour sensibiliser. Ensuite, deuxième action, c'est de retravailler les offres d'emploi pour, mettre une info qu'on ne met pas. Troisièmement, c'est, je ne sais pas, voilà. C'est vraiment, ça, c'est les actions qui découlent de l'engagement que vous avez pris. Okay. Donc, on définit un plan d'action et on organise notre premier comité. Ça peut être une idée, hein, un comité RSE, c'est avec des personnes qui sont, par exemple, des ambassadeurs. Ça peut être à partir de ce comité-là, vous allez formaliser le premier plan d'action. Et ensuite, vous mettez en place le plan d'action, mais il faut penser à la valorisation de cette démarche. Évaluer l'impact et créer une dynamique de valorisation autour de la démarche. C'est quoi? Une démarche RSE, quand on la met en place, c'est très bien parce qu'en fait, voilà, on s'engage dedans, etc. Mais on a un rôle en tant qu'entreprise de vraiment de donner l'exemple aussi, d'en parler, c'est bien. C'est pas du greenwashing. C'est en fait, au contraire, il y a les entreprises qui font peut-être pas forcément les choses qu'ils disent et qui en fait qui en parlent, alors que les entreprises qui font les choses de la bonne manière, ben, ils devraient en parler aussi, parce que quelque part ça va donner l'exemple aux autres, ça va valoriser les actions. Peut-être que même vos parties prenantes, ben, finalement quand ils vont voir que vous avez communiqué sur des actions, ça va valoriser aussi leur engagement. Donc c'est important de valoriser les actions mises en place, d'évaluer aussi l'impact, parce que peut-être qu'on a mis en place une action, mais en gros on l'a mis en place, il n'y a pas forcément de résultats concrets, alors qu'une autre action, on l'a mis en place, l'impact, il est très, très fort. Ça veut dire que, par exemple, on a mis en place une action, par exemple, de réduire les impressions de 30% sur l'année ou voilà, la consommation de papier de 30% ou de 40%. À la fin de l'année, on recalcule l'achat de papier et du coup, on se rend compte qu'on a réduit de 30%, par exemple. Et du coup, là, c'est très bien parce qu'en fait, ça valorise les actions qui sont mises en place. Et ça maintient la dynamique et l'engagement. Voilà. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a des choses que vous mettez en place. Du coup, vous dites, voilà, sur des documents différents, etc. L'idée, en fait, c'est plus en fait, de lister les choses que vous mettez en place. Et ensuite, en fait, si c'est un document qui est complet, etc., vous l'avez de côté. S'il n'est pas complet, qu'il faut retravailler dessus, vous mettez à retravailler, voilà. Et du coup, finalement, vous, votre document RSE, c'est pas tous les documents que vous avez au niveau opérationnel. C'est votre document RSE, c'est votre politique RSE. C'est un rapport RSE où on retrouve ce que j'ai dit au début. Donc, la politique RSE, les enjeux, les engagements sur l'année 2025, le plan d'action. Et du coup, vous valorisez tous les engagements qui sont déjà mis en place. Donc, tout le travail que vous avez fait en amont pour dire, nous, on a travaillé sur la RGPD, on a travaillé sur ça, on valorise ça, on met en place ça et tout. Donc, tout ça, vous le mettez dans votre rapport RSE pour communiquer sur les engagements que vous mettez en place. Donc, ça, c'est votre rapport RSE. Et chaque année, vous l'alimentez avec les actions que vous avez mis en place. Et du coup, ça enrichit le document et vous avez un document qui retrace tous vos engagements RSE. C'est bon pour vous ? J'ai répondu en gros à la question.
Oui, en fait, il faut un autre suivi sur un document pour écrire la politique et le plan d'action.
C'est ça, exactement. Et ça, c'est votre rapport. Regardez sur Internet, en fait, les entreprises, vous pouvez trouver, chaque entreprise, elle nomme le document d'une façon. Donc, vous avez soit rapport RSE, soit politique RSE, soit charte RSE. Et du coup, vous allez trouver plein de types de documents parce qu'il n'y a pas une trame spécifique, mais en tout cas, il y a plein de façons de communiquer sur une démarche RSE. Et du coup, vous allez vous inspirer, vous allez trouver plein de documents qui retracent un peu ce que je viens de dire. OK ?
D'accord.
Ensuite, comme je vous ai dit, je vais vous donner les clés de réussite d'une démarche RSE par étape. Donc, pour la première étape, donc l'état des lieux. L'idée, c'est d'impliquer dès le départ les collaborateurs dans cette démarche-là d'état des lieux. Parce que quelque part, peut-être que vous avez en tête les actions que vous avez mises en place, mais peut-être qu'eux, ils voient autre chose qui est déjà mise en place, des choses en fait qui sont que eux-mêmes en fait ils mettent en place et vous êtes peut-être pas au courant au niveau peut-être de l'anti-gaspillage ou des choses qu'ils font. Qu'il faudra valoriser. Donc, l'idée, c'est peut-être d'impliquer quelques collaborateurs et collaboratrices dans la démarche dès le départ au niveau de l'état des lieux pour que ça soit le plus complet possible. C'est aussi s'appuyer aussi sur des accompagnements et il y a des financements pour les accompagnements. Je pense que Opco Santé aussi, ils financent les accompagnements RSE parce que c'est bien aussi qu'il y ait quelqu'un, comme vous le savez, qui vous fait un regard extérieur et qui vous donne en fait un peu une orientation au niveau du référentiel et vous permettre d'avoir un état des lieux complet. Ça, c'est une clé de réussite aussi parce que c'est quand même un investissement en temps. Donc, si on arrive à financer cet investissement-là, on gagne encore en optimisation. Et troisième point, c'est se référer à la norme ISO 26000, qui permet d'avoir tous les critères RSE et du coup, nous permet vraiment de faire un bon état des lieux complet. Voilà. Pour l'étape 2, ce qui est projet RSE, donc là, l'implication de la direction, elle est primordiale. Donc, vous devez être impliqué dans la phase de définition du projet de la politique RSE, parce que vous avez cette idée globale des enjeux de l'établissement aujourd'hui. Ça, c'est important. Parce que bon, dans certaines entreprises, des fois, la direction, elle confie le projet à quelqu'un qui est opérationnel, etc., qui peut très bien en fait engager la démarche, mais il va y avoir un manque de vision aussi sur un peu les enjeux et tout. Et donc, ça manquera un peu d'engagement, on va dire, parce que la direction, elle n'est pas engagée. Donc, quelque part, c'est difficile d'engager les collaborateurs par la suite. La RSE doit servir à la performance de l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on définit une politique RSE, on dit, voilà, nos engagements, c'est ça. En fait, il faut se dire, parce qu'on peut avoir plein d'idées d'action à mettre en place. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, quelque part, on se dise, voilà, nous, quel est notre projet de développement ? Vers quoi on veut tendre ? Par exemple, on va dire, d'ici 2-3 ans, nous, on aimerait, dans votre cas, par exemple, je ne peux pas vous mettre à votre place, mais du coup, par exemple, je vais dire, je veux que mon établissement, il permet d'attirer, qu'on arrive à attirer plus de personnes, en fait, comment vous dites, les personnes qui sont dans le foyer.
Les habitants.
Oui, plus d'habitants, voilà, qu'on soit plus attractif à ce niveau-là, que en fait nos salariés finalement soient beaucoup plus performants et productifs pour que finalement on délivre une qualité de service beaucoup plus optimale. Bref, donc moi je veux ça dans l'avenir. Donc pour ça, finalement, comment la démarche RSE va m'amener à cet objectif-là ? Finalement, c'est comme ça qu'on va prioriser des choses à mettre en place pour aller dans ce sens. Pour que finalement, pourquoi ? Parce que je dis ça parce que c'est pour éviter que en fait on parte sur deux chemins. Parce qu'aujourd'hui, on peut être hyper engagé dans la démarche RSE, mais du coup, finalement, en fait, on perd un peu le fil du développement d'entreprise. Et du coup, à un moment donné, on va stopper la démarche RSE pour s'orienter vers le développement, parce que une entreprise qui se développe pas et qui au niveau économique, ça ne marche pas, forcément, on ne peut pas engager une démarche RSE, on ne peut pas maintenir une démarche dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours allier, qu'il y ait de la cohérence d'ensemble, en fait, entre votre stratégie de développement et votre stratégie RSE, pour qu'il y ait de la cohérence, pour que toutes les actions que vous mettez en place aient du sens et que ça soit, en fait, mis en place au quotidien, en fait. Ensuite, pensez à définir des engagements ambitieux, mais réaliste à la fois. C'est toujours se dire, OK, donc moi, je m'engage dans ça, OK, mais il ne faut pas que ce soit que des engagements ambitieux. Je veux faire… parce que dans la démarche RSE, on peut partir loin. C'est de se dire, chaque année, en fait, je peux formaliser des engagements nouveaux. En fait, je ne suis pas obligée de rester que sur ces engagements-là. Donc, sur une année, je définis cet engagement-là qui est ambitieux, bien évidemment, parce que c'est pas quelque chose qui est facilement atteignable du jour au lendemain, mais qui soit réaliste aussi, que je sache que quelque part les actions que je vais mettre en place vont me permettre d'atteindre cet objectif-là. Voilà. Mise en œuvre au niveau du plan d'action, impliquer les managers et les collaborateurs dans la définition du plan d'action. Identifier certains ambassadeurs, parce que quelque part, pour partager des idées, pour sensibiliser les autres collaborateurs, si on a une collaboratrice, par exemple, qui est super engagée sur le pilier environnement, elle peut porter les actions environnementales et donner envie aux autres, en fait, de faire la même chose. Définir des objectifs SMART, ça veut dire que quand on définit une action, on dit, voilà, nous, on va mettre en place, par exemple, un compost. Ce compost-là, on va le mettre en place d'ici un mois, on va mettre en place un compost et on va évaluer. Voilà, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Ensuite, prioriser les actions rapides à mettre en place ayant un impact fort et des résultats rapides. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on met en place une démarche RSE au tout début, en fait, au début, on crée de l'engagement. Mais ce n'est pas un engagement, un vrai engagement, parce qu'on a vraiment des attentes, on est hyper motivé, on a des attentes et tout. Donc, tout le monde est en attente de voir les résultats de la démarche RSE. Donc, si, en fait, dès le début, on met en place des actions, par exemple, où on sait que cette action-là va être réalisée qu'après 6 à 8 mois, c'est bien de définir des actions comme ça, mais il faut toujours penser à définir des actions qui sont rapidement mise en place, par exemple, une action qu'on peut mettre en place dès demain, en fait, où, en fait, l'impact est fort, visible. Ça veut dire que quand, par exemple, on va... Je donne l'exemple de compost. Je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai cet exemple-là. Mais en fait, si on dit qu'on va mettre en place un compost et favoriser cette action-là, bah, du coup, c'est quelque chose qui va être mis en place rapidement et les personnes vont voir les résultats rapidement. Donc, c'est vraiment réfléchir à des actions rapides à mettre en place ayant un impact fort et visible, plus des actions qui sont un peu plus moyen terme. Valorisation, donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment démontrer les résultats de cette démarche pour gagner en retour sur investissement, communiquer sur la démarche, organiser un comité des parties prenantes. Je vous explique un peu ce que c'est un comité, en fait, où on invite des parties prenantes prioritaires, donc des parties prenantes qui sont vraiment directement impliquées, impactées par notre activité. Par exemple, on peut inviter les fournisseurs avec qui on est souvent en contact. On peut inviter pour vous un médecin, par exemple. On peut inviter, la mairie ou en fait une association locale. On peut inviter, c'est vraiment des parties prenantes externes et internes qui sont directement impliqué dans votre activité. Et peut-être s'il y a un sujet qu'on n'arrive pas à traiter tout seul dans son coin, on se dit, peut-être c'est un sujet que je peux travailler avec mes parties prenantes. J'ai une question, un sujet, un projet que je veux porter, mais du coup, je ne sais pas comment y répondre. Et du coup, j'ouvre l'échange avec mes parties prenantes, je les invite, et du coup, je dis, moi, je veux travailler sur ce projet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un enjeu derrière? Est-ce que vous avez des attentes? Comment on fait pour mettre en place ce projet. Et ça se fait au niveau d'une démarche RSE, c'est très apprécié. On peut aussi obtenir un label à la suite en fait, d'une démarche RSE, bien évidemment. Quand on aura défini notre démarche et qu'on a complètement intégré tout ça, on peut valoriser avec un label du coup qu'on peut afficher. Voilà. C'est bon pour vous ?
Merci.
je comptais à la fin faire un mini atelier en fait avec deux trois consignes. On peut le faire là si vous avez peut-être 5 minutes parce que du coup vu qu'on a débordé un peu et qu'on a commencé un peu plus tard, mais je pense que ça peut être intéressant pour vous de faire ce mini atelier. Du coup, l'idée c'est quoi? Moi, ce que je voulais, c'est en fait que chaque participant puisse déjà réfléchir à son niveau de maturité sans forcément rentrer dans le détail. C'est de dire, par exemple, déjà la consigne 1, pour vous, quels sont les principaux enjeux de votre entreprise? Donc, les enjeux, c'est des choses en fait, qui sont hyper importantes pour vous aujourd'hui, que vous êtes en train de traiter. Et votre niveau de maturité, le définir, ça veut dire que pour chaque pilier, donc là, vous avez vu économique, social, environnemental, gouvernance et territoire, vous allez me dire sur quel pilier vous êtes loin des résultats, ça veut dire que vous n'avez rien, presque rien mis en place, c'est rouge. Quel pilier? Vous êtes bleu, ça veut dire que vous avez mis en place, mais c'est perfectible. Et vert, c'est vraiment le pilier où vous êtes vraiment très bien. En fait, vous avez mis en place énormément d'actions et vous voulez le valoriser aujourd'hui. Voilà. Et après, en fait, à partir de là, sur le point rouge, le pilier rouge, quel engagement vous voulez prendre aujourd'hui finalement, c'est une action prioritaire. Là, aujourd'hui, une action vraiment smart. Dès demain, je vais proposer un moment d'échange hebdomadaire avec mes équipes. Dès demain, je vais mettre en place le tri sélectif dans mon entreprise. C'est vraiment un engagement, une action prioritaire facilement mise en place. Je vous laisse peut-être 3, 4, 5 minutes, comme vous voulez. C'est rapide, hein. on va échanger ensemble. C'est plus ça le plus intéressant. Mais du coup, si vous pouvez me dire là, quels sont les enjeux pour vous aujourd'hui?
Alors, en termes économiques, c'est qu'on est assez d'habitants par rapport au prix d'aujourd'hui, pour en fait payer l'établissement.
J'ai pas entendu, vous êtes?
Oui. Au niveau économique, oui. Pour que l'argent rentre, il faut qu'on ait des habitants, assez d'habitants.
Oui.
Donc, ça, c'est ce qui fait le prix de journée. Pour oui. ça, on a eu un souci, mais on a trouvé la solution. C'était avec la maison du handicap qui nous orientait les personnes. Ce n'était pas bon. Donc là, ça a été solutionné.
OK. Donc là, moyen long terme, ça va être toujours… c'est bon, quoi. Il n'y a plus de risque.
Alors, la MDPH, elle va revoir le logiciel. En fait, voilà.
D'accord.
Bah,
Mais
si,
en
on
tout cas,
va continuer à faire des
c'est un
concerts.
enjeu quand même pour vous de maintenir en
C'est
fait
un enjeu parce que là,
la
pour rien,
stabilité
ça, en fait.
du
Là, ils nous
nombre
disent,
d'habitants,
telle
en fait.
personne peut venir chez vous.
Oui.
C'est ça.
Ça reste quand même un enjeu, malgré que vous avez trouvé une solution. Il faut tout, c'est un enjeu quand même pour vous. Si un jour, voilà, cette solution n'est plus.
En fait, l'enjeu, c'est qu'on ait des gens sur la liste d'attente. Qu'on ait
C'est
des
vous
personnes chez elles
faire
à laquelle on
vraiment
peut avant.
vous faire connaître réellement pour attirer de nouvelles entrées, quoi.
C'est ça.
C'est ça, je pense, ouais.
Et donc, du coup, on fait des portes ouvertes. Chaque fois qu'il y a quelque chose, on publie dans la presse. Notre travail, ça sera de remettre à jour le site Internet. Parce qu'on a des
Oui.
personnes qui vont.
Ok, donc ça c'est un enjeu économique. Vous avez un enjeu autre sur par exemple le social ou.
Social, mais c'est tout ce qui est les embauches.
D'attirer plus de candidats?
Oui, attirer. Bon, actuellement, on a ce qu'il faut, mais ça fait du temps à vite. C'est
Ok.
être connu sur le territoire, je pense.
Ouais, c'est pour vous, je pense que
Si on est connu sur le territoire,
l'enjeu
voilà,
majeur,
et
c'est
non pas.
vraiment de vous faire connaître réellement au niveau du territoire. Je pense que c'est ça, votre enjeu global, en fait.
Et sur la connaissance du territoire, donc on a fait intervenir la presse en vidéo, en fait. Maintenant, les journaux de presse font des vidéos, ils sont venus, et en fait, ça marche très bien. Ça touche un autre
Ouais.
public, les vidéos.
Ah, bah oui, forcément. Bon, bah, très bien.
Et après, on est en train de faire avec le département une enquête. Alors, j'ai fait une formation sur attractivité, fidélisation, qu'on a travaillé avec le CSE. En fait, on a fait une enquête qu'on a ouverte à tout le monde. Donc, les gens qui y rentrent, ils peuvent la compléter. C'est affiché
D'accord.
par les murs. Il y a une histoire de post-it. Chacun peut mettre les valeurs. Quelles sont les valeurs de chez nous? Quelles sont nos missions?
Très bien.
Comment on voit la politique RH? Comment on voit l'engagement de chacun?
Très bien. Bon, bah, c'est super. Vous avez mis en place plein d'actions. C'est vrai que pour vous, ça va être plus de la valorisation de ce qui est mis en place, mais aussi peut-être quelques axes de progrès. Mais si là, je vous dis, quel est le pilier où vous allez mettre une pastille rouge, où vous êtes vraiment, vous n'avez rien fait. S'il n'y a pas de pilier où vous êtes rouge, on va mettre du bleu. Vous me dites là où vous mettez le bleu. Si vous avez mis en place, mais c'est perfectible.
Ah, on est tous sous électricité. Toutes les machines sont sous électricité. Ça a un coût. On est en train de travailler sur des panneaux solaires.
Ouais. Donc c'est le pilier
Après, je pense qu'il y a des
environnemental où
choses qu'on pourrait avancer
vous êtes
sur.
rouge.
Oui, le tri sélectif, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire. On a diminué quand même les papiers parce qu'on a des logiciels, on a moins de choses
Avez
sur papier.
numérisé, oui. Oui.
Oui, on numérise beaucoup et on fait moins de photocopies.
Ouais, ça, ce serait bien. Ok. Donc là, à partir
Par rapport aux apprenants, je vais
de cet
pas
atelier-là aujourd'hui, est-ce que ça vous a inspiré? Quelle action là pour demain, vous vous engagez à faire quoi? Donc on a vu vraiment ce que c'est que la RSE, quelles sont les étapes clés, les bénéfices, les clés de réussite. Pour vous, en fait, là demain, quel est votre engagement et quelle est votre action prioritaire?
En fait, ça, tout le monde, on l'a, même les salariés. En fait, il faut l'écrire, hein, la politique, hein, RSE.
Oui, c'est ça.
Elle
C'est
n'est pas
écrire
écrite.
la politique RSE, je pense, c'est ça. Pour vous, c'est ça. En tout cas, c'est le point de départ, c'est sûr. Très bien. Bon, bah, super. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce qui a peut-être manqué au niveau de la présentation, peut-être?
Les critères, là, mais vous m'avez dit que vous allez les envoyer,
Oui,
les
je vais vous envoyer
différentiels.
un tableau, je vais voir ce
Ouais.
que j'ai, mais
Comme ça, je verrai.
ouais.
Je verrai si j'ai une idée pour avoir une idée globale, en fait, pour écrire
Oui,
la politique.
vous avez raison. Comme j'ai dit, c'est
Après,
essentiel de prendre un référentiel, ouais.
vous avez été très clair par rapport à tout ça. Et alors, je viens de trouver, en même temps que vous me disiez là de chercher, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être intéressant aussi pour vous, un calendrier où il y a dessus les actualités RSE, RH et QVT, où tous les mois on fait deux ou trois actions qu'on
Ah,
peut télécharger gratuitement.
super ça. Ça donne des
Alors, je me
idées,
dis, si pas.
d'événements.
Ouais, les ateliers durables, ça s'appelle. Hein.
Ouais, ok, bah je verrai.
Comme
Atelier.
ça peut mobiliser tout le monde, en fait,
Ah
le
ouais.
CSE. Tout le monde voit que ben, on est le mois de février, on va travailler sur je sais pas, l'atelier du mois, la santé par rapport à les femmes, quelle
Ouais.
prévention, l'écologie. Il y a des salons, et ça peut dire, ben, tiens, on pourrait le mettre, on pourrait travailler en parallèle avec ce qui se passe dans la
Oui,
société.
super.
Sécurité de travail, c'est le 28 avril, donc on peut l'anticiper.
Ouais,
Et ça veut dire que
voilà.
la semaine
On peut
du
même
28.
planifier l'agenda RSE sur l'année et comme ça donne des idées d'événements transversales dans l'entreprise pour impliquer un peu tout le monde.